Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour notre émission Je suis venue vous lire. C'est l'été, bientôt les vacances ou peut-être déjà en vacances. Alors souvent en vacances, on aime prendre le temps de lire, de se laisser aller dans un roman, une intrigue, une histoire embrouillée, une enquête pleine de rebondissements ou un huis clos inquiétant ou une course-poursuite haletante du genre roman noir. Policier ou polar. J'aime le polar, disait Claude Chabrol. C'est comme une bouée de sauvetage pour explorer l'humain. On peut y présenter les pièges de l'existence, une énigme qui est totalement ou partiellement résolue à la fin du film. Le plus important dans un polar, disait Arlène Coben lors d'un interview, est de s'assurer que l'histoire fonctionne. Est-ce que l'histoire que je raconte au lecteur est captivante? Voilà la seule question qu'il faut se poser. À chaque page, à chaque phrase, à chaque mot. Alors, si on découvrait ensemble, le temps d'une émission, le tout début d'une histoire policière, d'une intrigue, juste de quoi vous donner envie de poursuivre l'enquête, de résoudre l'énigme. Les auteurs de polar ne manquent pas, alors pas forcément simple d'en faire une sélection. Mais nous avons tenté, malgré tout, de vous présenter à la fois des auteurs connus, populaires, et aussi des moins connus. Mais tous nous entraînent chacun dans leur style, dans des univers sombres, mystérieux, étrangers, inquiétants, voire quelquefois fantasques. Vendredi 7 novembre. Concarneau est désert. L'horloge lumineuse de la vieille ville qu'on aperçoit au-dessus des remparts marque 11h05. C'est le plein de la marée et une tempête du sud-ouest fait s'entrechoquer les barques dans le port. Le vent s'engouffre dans les rues où l'on voit parfois des bouts de papier filer à toute allure au ras du sol. Quai de l'Aiguillon, il n'y a pas une seule lumière. Tout est fermé. Tout le monde dort. Seules les trois fenêtres de l'hôtel de l'Amiral, à l'angle de la place et du quai, sont encore éclairées. Elles n'ont pas de volets, mais à travers les vitraux verdâtres, c'est à peine si on devine des silhouettes. Et ces gens attardés au café, le douanier de garde les envie, blotti dans sa guérite à moins de 100 mètres. En face de lui, dans le bassin, un caboteur qui l'après-midi est venu se mettre à l'abri. Personne sur le pont. Les poulies grincent et le phoque mal cargué claque au vent. Puis il y a le vacarme continu du ressac. Un déclic à l'horloge qui va sonner 11h. La porte de l'hôtel L'Amiral s'ouvre. Un homme paraît, qui continue à parler un instant par l'entrebâillement à des gens restés à l'intérieur. La tempête le happe, agite les pans de son manteau, soulève son chapeau melon qu'il rattrape à temps et qu'il maintient sur sa tête tout en marchant. Même de loin, on sent qu'il est tout guiré, mal assuré sur ses jambes, et qu'il fredonne. Le douanier le suit des yeux, sourit quand l'homme se met en tête d'allumer un cigare. Car c'est une lutte comique qui commence entre l'ivrogne, son manteau que le vent veut lui arracher, et son chapeau qui fuit le long du trottoir. 10 allumettes s'éteignent. Et l'homme au chapeau melon avise un seuil de 2 marches, s'y abrite, se penche. Une lueur tremble, très brève. Le fumeur vacille, se raccroche au bouton de la porte. Est-ce que le douanier n'a pas perçu un bruit étranger à la tempête? Il n'en est pas bien sûr. Il rit d'abord en voyant le noctambule perdre l'équilibre, faire plusieurs pas en arrière, tellement penché que la pose en est incroyable. Il s'étale sur le sol, au bord du trottoir, la tête dans la boue du ruisseau. Le douanier se frappe les mains sur les flancs pour les réchauffer, observe avec mauvaise humeur le phoque dont les claquements l'irritent. Une minute, 2 minutes passent. Nouveau coup d'œil à l'ivrogne. Il n'a pas bougé. Par contre, un chien, venu on ne sait d'où, est là qui le renifle. Ben, c'est seulement à ce moment que j'ai eu la sensation qu'il s'était passé quelque chose, dira le douanier au cours de l'enquête auprès de l'inspecteur Maigret. Alors, vous avez reconnu? C'est Simenon, avec son commissaire, le légendaire Maigret. Ce tout début d'histoire est tiré du livre « Le chien jaune », un classique du polar français.
J'étais bien installé, fixé sur mon nombril, avec les certitudes de ceux qui pèsent lourd. Le cynisme rapide pour les dîners en ville, un triplex sur les champs, une villa à Cabourg. Carnet d'adresse, quelques ministres intègres, quelques putes de luxe, 7 ou 8 top modèles, des restaurants branchés, un vieux chauffeur très maigre, un président fourbu dont je tire les ficelles. J'étais maître d'un monde où se battent et surnagent des esclaves trop chers et des femmes volages. Seul allongé, et mon sang devient noir, mon regard étonné est celui d'un enfant. C'est toujours un mystère ce que tu peux bien voir quand le 1143 est reparti fumant. Tout autour, quelques ânes et des chevaux de course se préparent aux courtines à griffer des dollars. Juste au milieu du front, une piqûre louche, derrière le crâne un trou béant sur le comptoir. Les flashs des photographes, les poulets, les indiquent, et la foule anonyme avec ses lieux communs. Rien ne me touche plus, ni le jeu, ni le fric, car jamais de ma vie j'étais allé si loin. J'étais maître d'un monde où se battent et surnagent des esclaves très chers et des femmes volages. Dégagé, rien à voir avec les gangs mythiques, ceux des tractions avant, Roger Rib et Buisson, la complainte de Mandrin a des allures antiques. Si tu viens du milieu, tu connais la chanson. La goualante de la rue qui chantonnait mon homme, des hommes qui ne sortaient que quand la nuit venue. Gentleman solitaire, il délourdait les portes, tandis que le bourgeois se pressait dans la rue. J'ai tant de souvenirs au nom surréaliste, ou pour le Stéphanois, beau torse, beau sourire, la Bible, le Nantais, le Breton et la liste, aussi longue, tu vois, que nos éclats de rire. J'étais maître d'un monde où se battent et surnagent des esclaves très chers et des femmes volages. Je ris encore parfois, mais avec peu d'amis. Le champagne va mal aux caves affranchies. Comme le disait si bien la grande signorée, la nostalgie, petit, n'est plus ce qu'elle était.
Alors on continue. Et toujours dans la série des romans policiers, en voilà un sacré roman noir d'une actualité brûlante avec un suspense ravageur. L'auteur nous invite à la rencontre de celles qui ont cru au mirage d'une vie meilleure, des clandestines laissées pour compte dans le pays des mille et une nuits. « SUV heurta la coulée de sable, dérapa et s'immobilisa au milieu de la route. L'équipe de la brigade criminelle descendit du véhicule. Quatre hommes en civil, la chemise froissée, le visage rougi par le soleil et des lunettes noires pour se protéger les yeux. La jeep de la police locale vint se garer derrière eux. Le bédouin qui avait découvert le corps savait interpréter les signaux les plus subtils du langage corporel. À la déférence qui transparaissait dans l'attitude des autres policiers, il comprit immédiatement qui était le responsable des opérations. L'inspecteur Ibrahim Zahrani n'eut même pas besoin de se présenter. Le bédouin s'approcha de lui pour le raconter d'une voix fébrile comment son camion avait décrit une brusque embardée, projetant un de ses moutons là-bas, tout là-bas, vers la remorque. C'est en allant récupérer la bête qu'il avait trouvé le cadavre. Tout le monde le suivit jusqu'au lieu de sa macabre découverte, derrière une petite imminiscence sablonneuse. Cinq paires de bottes se plantèrent en demi-cercle autour du visage mutilé. Première vue, il était difficile de dire s'il appartenait à un homme ou à une femme. La joue et l'œil gauche avaient été arrachés, une plaie probablement causée par la sortie d'une balle tirée à bout portant. Et ce qui restait de peau était gris, desséché et couvert de sable. Au minuscule lambeau de tissu noir dépassant au niveau du cou, Ibrahim devina qu'il s'agissait d'une femme. Sa première pensée fut certainement un jeune homme d'une tribu du désert avait tué sa sœur d'une balle dans la tête pour laver un crime, mettant en jeu l'honneur de la famille. Qui d'autre aurait pu enterrer quelqu'un ici? Cet endroit bien au sud de Jeddah, en dehors des limites de son agglomération, n'était qu'un coin perdu à l'intérieur des terres, un ruban de sable à 25 km de la route principale. Il s'était égaré à deux reprises en chemin et avait dû attendre que le flic du coin vienne les chercher. Il abaissa de nouveau son regard sur le visage de la morte. Ce n'était pas une bédouine. En dépit des dommages qui leur avaient été infligés, les traits étaient indéniablement asiatiques. Ibrahim consulta sa montre. 13h30. Avec un peu de chance, ils en auraient terminé avant les heures les plus infernales de la journée. On était au début de l'automne, qui n'était en fait qu'une prolongation de l'été. Déjà, la chaleur lui brouillait les idées, interrompant le cours de ses pensées tel un interlocuteur impatient. Le policier local, Atab Al-Enzi, n'avait pas l'air plus habitué que lui à travailler dans pareilles conditions. Le teint terreux, couvert de sueur, il clignait des yeux sans arrêt. Il klaxonna en guise de salutation et repartit, sans doute pour aller chercher le médecin légiste, ou peut-être les techniciens de la police scientifique, qui devraient probablement tourner en rond sur ces mêmes routes qu'Ibrahim et ses hommes avaient parcourues quelques instants plus tôt en les maudissant copieusement. Derrière eux, les moutons bêlaient dans la remorque. La moitié de la chaussée était ensablée. À quelques mètres de l'endroit où ils avaient arrêté le SUV, elle devenait pratiquement impraticable. Dans un lieu aussi isolé, la route aurait pu rester dans cet état pendant des semaines et des semaines, rares étant les automobilistes qui s'y aventuraient. Si vous voulez connaître la suite, le roman s'appelle Clandestine, de Zoé Ferrari. Clandestine est son troisième roman et il est édité chez Belfond. Thank you. Un auteur de série noire, Quinn, est éveillé au milieu de la nuit par un coup de téléphone qui ne lui était pas du tout destiné. On demande un détective, un certain Paul Auster. C'est un faux numéro qui a tout déclenché. Le téléphone sonnant trois fois au cœur de la nuit et la voix à l'autre bout demandant quelqu'un qu'il n'était pas. Bien plus tard, lorsqu'il pourrait réfléchir à ce qui lui était arrivé, il en conclurait que rien n'est réel, sauf le hasard. Mais ce sera bien plus tard. Au début, il y a simplement eu l'événement et ses conséquences. Quant à savoir si l'affaire aurait pu tourner autrement, ou si elle avait été entièrement prédéterminée dès le premier mot qui sortit de la bouche de l'étranger, bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'histoire même. Et ce n'est pas à elle de dire si elle a un sens ou pas. Pour ce qui est de Quinn, peu de choses nous retiendront. Quinn, il était d'où il venait. Et ce qu'il faisait n'a pas grande importance. Nous savons entre autres qu'il avait 35 ans. Nous savons qu'il avait été jadis marié, qu'il avait été un jour père et qu'à présent sa femme et son fils étaient tous les deux morts. Nous savons aussi qu'il écrivait des livres. Pour être précis, nous savons qu'il écrivait des romans policiers. Ses ouvrages étaient signés du nom de William Wilson et il les produisait au rythme d'environ un par an, ce qui lui procurait assez d'argent pour vivre modestement dans un petit appartement de New York. Comme chaque roman ne lui prenait pas plus de 5 ou 6 mois, il avait le loisir d'utiliser le restant de l'année à sa guise. Il lisait un grand nombre d'ouvrages, il regardait des tableaux, il allait au cinéma. L'été, il suivait le baseball à la télévision. L'hiver, il fréquentait l'opéra. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était marcher. Presque chaque jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud ou froid, il quittait son appartement pour déambuler dans la ville, sans savoir vraiment où il allait, se déplaçant simplement dans la direction où ses jambes le portaient. New York était un espace inépuisable, un labyrinthe de pas infinis. Et aussi loin qu'il alla, et quelle que fût la connaissance qu'il eut de ses quartiers et de ses rues, elle lui donnait toujours la sensation qu'il était perdu. Perdu non seulement dans la cité, mais tout autant en lui-même. Chaque fois qu'il sortait marcher, il avait l'impression de se quitter lui-même, et en s'abandonnant au mouvement des rues, en se réduisant à n'être qu'un œil qui voit. Il pouvait échapper à l'obligation de penser, ce qui lui apportait une part de paix, un vide intérieur salutaire. Autour de lui, devant lui, hors de lui, il y avait le monde qui changeait, à une vitesse telle que Quinn était dans l'impossibilité de s'attarder bien longtemps sur quoi que ce soit. Le mouvement était l'essence des choses, l'acte de placer un pied devant l'autre et de se permettre de suivre la dérive de son propre corps. Ses promenades les plus réussies étaient celles où il pouvait sentir qu'il n'était nulle part. Et c'était finalement tout ce qu'il avait jamais demandé aux choses, être nulle part. New York était le nulle part que Quinn avait construit autour de lui-même. Et il se rendait compte qu'il n'avait nullement l'intention de le quitter à nouveau. Autrefois, Quinn avait été plus ambitieux. Lorsqu'il était jeune homme, il avait publié plusieurs livres de poèmes, écrit des pièces de théâtre, des essais de critique littéraire, et il s'était astreint à plusieurs traductions de longue haleine. Mais il avait brusquement tout abandonné. Une partie de lui-même était morte, disait-il à ses amis, et il ne voulait pas qu'elle revînt le hanter. C'était alors qu'il avait adopté le nom de William Wilson. Quinn n'était plus cette partie de lui qui pouvait écrire des livres, et même si Quinn restait encore en vie, il n'existait plus pour personne, sauf pour lui-même. Il avait continué à écrire parce que c'était la seule chose qu'il se sentait capable de faire. Les romans policiers lui avaient paru une solution raisonnable. Il lui était guère difficile d'inventer les intrigues compliquées qu'il leur fallait. Et il écrivait bien, souvent malgré lui, comme sans effort. Puisqu'il ne se considérait pas l'auteur de ce qu'il rédigeait, il n'en éprouvait pas la responsabilité et n'était donc pas obligé d'en prendre la défense en son fort intérieur. William Wilson, après tout, n'était qu'une invention, et même s'il était né de Quinn, il menait désormais une vie indépendante. Quinn le traitait avec déférence, parfois même avec admiration, mais il n'allait jamais jusqu'à croire que William Wilson et lui-même fussent la même personne. C'est pour cela qu'il restait caché derrière le masque de son pseudonyme. Il avait un agent littéraire, mais ne l'avait jamais rencontré. Leur contact se limitait à des lettres, et pour les besoins de la cause, Quinn avait loué une boîte numérotée au bureau de poste. Il en allait de même avec l'éditeur qui lui versait tous ses honoraires, dus et droits d'auteur par l'intermédiaire de l'agent. Aucun des livres de William Wilson ne portait de photographie de l'auteur, ni de notice biographique. William Wilson ne figurait dans aucun annuaire d'écrivain, n'accordait pas d'interview, et c'était la secrétaire de son agent qui répondait à tout son courrier. Pour autant qu'il pût en juger, personne n'avait percé son secret. Premier livre de la trilogie new-yorkaise, La Cité de Verre, de Paul Auster. Un roman policier qui vous embarque dans une aventure extravagante, où ce sont à la fois Kafka et Hitchcock que l'écrivain convoque dans les détours de sa cité de Verre.
Qui m'aime me suivent, je suis détective. Pendant que je flingue au flash dans les hôtels du port, ma secrétaire se fait les ongles au miroir. C'est pour le fric que je me dépense. C'est diabolique quand on y pense. Je filature, la monnaie sonne. Alimentaire, mon cher Watson. J'en ai marre de faire ce job certains soirs. Vraiment marre d'être comme un mégot de cigare, comme ceux qui roulent des trottoirs et qu'on trouve au matin éteint. Quand j'étais flic, j'étais marron. Raquette, indique et corruption. Comme un chacal parmi les hyènes. Un type vénal qui a pas une veine. Je suis au rencard, j'ai plus la cote. C'est plus moi qui ai les boucs à ma botte. Y a plus de plaisir sous mon impair. Quand j'étais flic, j'étais couvert. J'en ai marre de faire ce job certains soirs. Vraiment marre d'être comme un mégot de cigare, comme ceux qui roulent des trottoirs et qu'on trouve au matin éteint. Les soirs de stress, je ramène Lola. Mes mains caressent le haut de ses bas. L'amour facile, je suis pas hostile. C'est sûr, je peux pas dire qu'elle s'offre, mais j'ai des photos d'elle dans mon coffre. J'en ai marre de faire ce job certains soirs. Vraiment marre d'être comme un mégot de cigare, comme ceux qui roulent des trottoirs et qu'on trouve au matin éteint. Un jour, c'est sûr, je quitterai la ville. Je suis trop connu à mon dernier domicile. Je prendrai Lola et ses photos. Je vivrai au lit, ça sera mon lot. Voilà ma carte, je suis détective. Il faut que je parte, qui m'aime me suit.
Dans le Paris 1926, il est difficile de survivre sans un sou en poche. L'armistice de 1918 n'est pas loin et les traces de la guerre sont encore présentes. venu de Montpellier tenter sa chance à la capitale, Pipette en fera la mère expérience. Il multiplie les petits boulots. Le soir, il déclame des poèmes à Montmartre. Il y croise la Goulue, André Breton, les surréalistes et les défenseurs de Sacco et Vanzetti. La nuit venue, en compagnie d'une bande, il cambriole les riches pour arrondir ses fins de mois. Mais quand un coffre-fort s'ouvre sur une macabre découverte, c'est une bien sombre histoire qui commence. Le type qui me faisait face me fixait sans me voir. Le discret sourire qui flottait sur ses lèvres lui donnait une expression de stupeur amusée. Peut-être une pensée légère avait-elle traversé son esprit, à moins que ce ne soit l'incongruité de sa situation. Sait-on ce qui peut vous passer par la tête dans tel moment? En tout cas, il devait être d'un naturel aimable. Moi, à sa place, mais j'aimais mieux ne pas y être, à sa place, parce que l'homme qui me regardait avec tant d'insistance était mort, et bien mort. Merde! Le bœuf ne parlait pas souvent, mais il venait de résumer ce que nous pensions tous les quatre. Côté a levé sa lampe. Sous la lueur dansante, le cadavre avait l'air de se foutre de nous. Bon, il pouvait, Ce n'est pas tous les jours que quatre malfrats tombaient sur un macabée en ouvrant un coffre-fort. Dehors, le vent redoublait. Et en hurlant, il s'engouffrait sous la porte. Oh, j'ai reculé d'un bond. Il a bougé. Hein? Qui? Le mort. Il venait de remuer. En un éclair, on l'a vu plonger, la tête la première. Il a touché le sol avec un craquement de bois sec. On le contemplait, horrifié. Comme une longue plainte s'est élevée de son corps raidi. Aiguë, tout d'abord. Elle est passée dans les graves avec la puissance d'un basson. Nous nous regardions incrédules. C'est pas vrai? Si, il pète. Côté a éclaté d'un rire nerveux qui nous a gagnés l'un après l'autre. Et plus nous nous tordions, plus le mort lâchait ses flatulences. C'était vraiment un macaque de bon poil. Raymond a ramené le calme. Bon, et assez. Les mecs, arrêtez un peu. Le sang circulait à nouveau dans nos veines. Du sang chaud, de vrai vivant. Et c'était bon de se sentir bouillonner. Un mouchoir sur le nez, Raymond retournait le défunt du bout du pied. Il s'est écarté pour avaler une goulée d'air. Mais c'est une infection! Collet est parti d'un nouveau hoquet. Pour puer, il pue la vache. Pas possible, c'est le pétomane! Je ne sais pas qui c'est, mais on l'a buté. La pensée qu'il puisse être enfermé tout seul ne nous avait pas effleurés. Mais le constat de Raymond nous ramenait à la réalité. Nous avions sur les bras la dépouille d'un homme assassiné. Le silence s'est installé, épais, seulement troublé par le bruit du vent qui charriait des bourrasques de neige. Le jour allait se lever sur Montmartre, et par-dessus l'odeur de charogne commençait à peser, celle aussi des emmerdements qui s'amoncelaient à l'horizon. Elle n'avait pas mis longtemps à me retrouver, les emmerdes, à croire que je les attirais. Les brouillards de la butte de Patrick Pécherot, avec son évocation de Paris populaire de l'entre-deux-guerres, ce roman a reçu le Grand Prix de littérature policière 2002. Patrick Pécherot s'inscrit comme Didier Deninx ou Jean Amila dans la lignée de ces raconteurs engagés d'histoire nécessaire. En quelques lignes, en quelques mots, la galerie de personnages qui traverse le roman prend vie, s'anime, adopte sa manière de parler et d'agir.
Nous sommes partis par une nuit plutôt nocturne. Nous quatre Dudule, le grand Victor et la Mésique. Nous avions collé des semelles crêpes à nos cothurnes. Il y avait les outils, la pince Monseigneur, chalumeau oxydrique. J'étais rencardé sur un boulon plutôt pépère. 3 kilos de diam', de la perlouse et puis du jonc. C'est pas si souvent que l'on dégote une bonne affaire. Ce soir entre tous, fallait pas faire les cornichons. Attention, garez-vous, ce soir on les attaque. Les bourgeois, les salauds, va bien falloir qu'ils raquent. On n'est pas sur le tas pour jouer de la figue libre. On va prendre un gros coffre et lui percer le bide. On perce. Grand Victor prend la chignole, toi Dudu fais pas le mariole, cul la boucle ou bien son sein. On perce. La musique à la courante, on va le mettre en 40. Ma parole c'est bien détente, perverse. Si ces crétins continuent, je les renvoie dans la rue avec un coup de pied dans le cou. Ça berce. J'allume au spétard, retire le coffre fort, il va souffrir. On va le mettre sans mollir. on perce. Nous sommes sortis avec du fric plein nos chaussettes. Ce vieux coffre-fort était bourré comme un bar. Il y avait de quoi s'offrir de la tortore et des fillettes. Mais au coin de la rue,
v'là du nul qui s'écrie, les mecs on est marrons.
Les poulets grouillaient comme un houdon un jour de foire. L'amnésique émue s'est mis à pleurer comme un veau. Il ne manquait plus à la basse-cour que les canards. Et voilà l'aurore qui arrive avec le Figaro. C'est fini les poteaux, ce soir on joue ouf. Plus d'osier, plus de filles et surtout plus de bouffe. Les barreaux de la cage se referment sur nous. Mais demain, pour ma part, je commence à faire un trou. On perce. J'ai démonté mon plumard pour y prendre une petite barre. Et du matin jusqu'au soir, on perce. Dans la cellule à côté, l'amnésique en train de gratter. Il va bosser jusqu'à ce que ça traverse.
Le grand Victor, ce vieux feignant, reste sur son pieu tout le temps. À chanter le marché perçant,
ça berce. Spécialiste du boulot, si on a un petit peu de peau, sûr qu'on sera sorti bientôt, on berce. Nous avons creusé pendant 2 ans, sauf le dimanche. Y a rien de plus dur que cette saloperie de béton. Nous quatre dudules, on peut pas dire qu'on se paye des manches. Mais j'aimerais mieux faire comme les marchands de gruyère, des trous dans du fronton. Et puis un beau jour, en limant le dernier bout de ferraille, par le trou du mur, j'ai vu soudain luire le beau blond. Vrai, ça fait plaisir, un résultat quand on travaille. C'est la récompense des gars honnêtes. Et ça, c'est bon. Attention, les poteaux, ce soir on met les voiles. Attachons bout à bout nos jolis draps de toile. C'est le moment de montrer qu'on est les rois du sport. On était bien soignés, mais on est mieux dehors. On perce. Le grand Victor descend dernier, comme ça s'il fait tout casser. Nous autres, on sera passés. On perce. On a de la veine, les amis, car tout le jour d'aujourd'hui, il tombait une de ces pluies à verse.
Ça y est, nous voilà sauvés, mais maintenant il faut foncer, y a un job à préparer.
Commerce. Pendant que j'étais au mitard, j'ai monté un coup ma star, et demain soir sans retard, on perce.
Alors
quand vous prenez une couchette dans un train de nuit, méfiez-vous des rencontres. Quand on retrouve une femme étranglée dans votre compartiment, méfiez-vous de vos voisins. Quand on supprime un à un tous vos voisins, méfiez-vous tout court. Si vous n'êtes pas vous-même l'assassin, c'est embêtant. C'est comme ça que ça commence. Le train venait de Marseille. Pour l'homme qui était chargé de suivre les couloirs et de jeter un coup d'œil sur les compartiments vides, c'était le phocéen de moins 10. Il y avait eu d'abord l'Annecy de moins 25, dans lequel il trouva 2 manteaux, un parapluie et une fuite de chauffage. Il vit s'arrêter le phocéen de l'autre côté du même quai, alors qu'il était penché derrière une vitre sur un écrou de manette fendu en deux. C'était un samedi très clair et très froid, du début d'octobre. Les voyageurs qui rentraient du midi, où l'on se baignait encore sur les plages, étaient surpris par la buée qui enveloppait leurs phrases de retrouvailles. L'homme qui suivait les couloirs avait 43 ans, se nommait Pierre, bébé pour les copains. Il affichait des idées d'extrême gauche, pensait à une grève qui devait éclater la semaine suivante. Et les choses étant ce qu'elles sont, à 7h53, en gare de Lyon, un samedi matin, un peu froid, il avait faim et envie d'un bon café. Comme on ne devait pas enlever les wagons du quai avant une bonne demi-heure, il décida, en descendant de l'Annecy, d'aller prendre le café avant de s'envoyer le phocéen. À 7h56, il était dans un bureau en réfection, au bout de la voie. Une tache jaune à liseré rouge fumant dans sa main, sa casquette bleue en arrière, a discuté avec un contrôleur myope et un manœuvre nord-africain de l'efficacité d'une grève déclenchée un mardi, un jour où personne, mais personne ne prend le train. Il parlait lentement, tranquillement, et prétendait, lui, qu'un débrayage, c'est comme la publicité. Ce qui compte, c'est d'en mettre un coup dans l'imagination du bourgeois. Les trois autres dirent que, bien sûr, il avait raison. On lui donnait facilement raison. Il était grand, lourd, avec des gestes lourds, une voix lourde, de grands yeux tranquilles qui le rajeunissaient. Il avait la réputation d'un type qui n'avale pas ses dents quand on lui tape sur l'épaule par derrière. Un type calme. À 8h05, il suivait les couloirs du phocéen, faisait glisser des portes vitrées, les refermait. Dans la voiture 4, seconde classe, au troisième compartiment, en commençant par l'arrière, il découvrit un foulard, imprimé jaune et noir, oublié sur une couchette. Il le déplia pour le regarder, vit un dessin qui représentait la baie de Nice. Se rappela Nice, la promenade des Anglais, le casino, un petit café du quartier Saint-Roch. Il était allé à Nice deux fois, à 12 ans en colonie de vacances et à 20 ans en voyage de noces. Ah, Nice. C'est dans le compartiment suivant qu'il trouva le cadavre. Bien qu'il s'endormît régulièrement avant le film au cinéma, il sut tout de suite que c'était un cadavre. La femme était allongée en travers de la couchette inférieure droite, les jambes bizarrement pliées par-dessus le bord, les pieds invisibles sous la banquette, un éclat de jour dans ses yeux ouverts. Ses vêtements, un tailleur sombre et un chemisier blanc, étaient en désordre, mais pas davantage, lui sembla-t-il, que ceux d'une voyageuse qui s'était allongée tout habillée sur une couchette de seconde. Sa main gauche était agrippée, jointure aiguë, au bord de la banquette. Sa main droite était restée appuyée à plat sur le mince matelas et le corps tout entier semblait statufié dans un effort pour se redresser. La jupe du tailleur était relevée en trois plis sur le haut des jambes. Un escarpin noir au talon, très fin, gisait sur la couverture grise de la SNCF, roulée en boule au pied de la couchette. L'homme qui suivait les couloirs dit un gros mot et resta 12 secondes à regarder le cadavre. La 13e seconde, il regarda le store baissé sur la vitre du compartiment. La 14e seconde, il regarda sa montre. Il était 8h20. Il répéta le gros mot, se demanda vaguement qui il devait prévenir et, à tout hasard, chercha sa clé dans sa poche pour boucler les lieux. 50 minutes plus tard, alors que le store était relevé et que le soleil s'était déplacé vers les genoux de la femme étendue, les flashs du photographe de l'identité judiciaire crépitaient dans le compartiment. À 18 ans, Sébastien Japrisseau publie son premier roman, « Le mal parti », sous son vrai nom Jean-Baptiste Rossi. Mais après avoir écrit directement pour le cinéma, il revient à la littérature avec « L'été meurtrier ». Il est l'auteur de nombreux romans qui ont tous connu le succès, dont « Un long dimanche de fiançailles ». Sébastien Japrisseau, disparu en mars 2003, est l'un des auteurs français les plus populaires à l'étranger. « Compartiment tueur », écrit en 1962, fut son premier polar et a été porté à l'écran par Costa Gavras 2 ans plus tard.
And I followed her to the station with a suitcase in my hand. And I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell, when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train roll up to the station, I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. When the train, it left the station with two lights on behind. When the train, it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. Willie Mae. Oh, hey, hey. Ooh, Willie Mae. Be your woe, all my love, and pain.
C'est dans Le Peuple des Ténèbres qu'apparaît pour la première fois Jim Shea, l'un des deux héros fétiches de Tony Ellerman. Impliqué dans une enquête touffue sur fond de magouilles liées à l'exploitation de mines d'uranium et poursuivi par un tueur qui possède des bombes à mercure, Jim Shea se retrouve, comme souvent, confronté à ses propres contradictions. La pluie se transforma soudain en une rafale de flocons semblable à du pop-corn. Il fouettait le chapeau d'uniforme de Jim Shea, rebondissait sous le col de sa veste d'uniforme et le faisait frissonner. C'était le troisième jour de novembre, si l'on se référait au calendrier de la First National Bank, qui se trouvait sur sa table de travail, dans son bureau, et le tout début de la saison où dort le tonnerre, selon le calendrier traditionnel et moins rigide du Dinde, le peuple navarro. Pour l'un, comme pour l'autre, il était trop tôt pour ce genre de temps, même à 2400 mètres d'altitude sur les pentes du mont Taylor. Il regarda en direction de son véhicule, une Chevrolet blanche, portant l'emblème de la nation Navarro et l'inscription « Police tribale Navarro », bien visible sur la portière. Il pouvait battre en retraite à l'intérieur de la voiture et brancher le chauffage. Il pouvait chercher refuge à l'entrée de la propriété de Benjamin Junior Vince et peut-être sonner plusieurs fois dans l'espoir d'attirer l'attention de quelqu'un. La sonnette émettait un étrange petit carillon qu'il pouvait entendre se répercuter plaisamment à travers la lourde porte. Quand bien même elle n'aurait entraîné absolument aucune réaction, il aurait été tenté de s'en servir à nouveau, ne serait-ce que pour l'entendre. La troisième solution consistait à remonter le col de sa veste pour faire obstacle à la neige fondue et continuer à satisfaire sa curiosité concernant cette maison. Elle avait pour réputation d'être la résidence la plus chère du Nouveau-Mexique. La curiosité qu'elle faisait naître en lui, comme celle que faisait naître tout ce qui concernait le monde des Blancs, était intense. Une curiosité d'autant plus intense, à ce moment-là, qu'il se pouvait qu'il entre lui-même très prochainement dans ce monde surprenant. D'ici le 10 décembre, dans moins de 5 semaines, il lui fallait décider s'il acceptait un poste au sein du FBI et une place dans le monde des carillons. Il ramena le col de sa veste autour de son cou, rabattit le bord de son chapeau et poursuivit ses observations. Il se tenait à côté d'un garage, presque mitoyen, pouvant contenir 3 voitures. Sur un espace couvert d'herbe, qui ne faisait pas plus de 4,50 m de long, 2 dalles de marbre noir retinrent son attention. Des pierres tombales. Le nom gravé sur celle qui se trouvait sur sa droite était Dillon Charley. Et en dessous, l'épitaphe disait « Il ne se souvenait pas de la date de sa naissance ». Décédé le 11 décembre 1953, un bon Indien. Shea fit la grimace. Le côté sarcastique de cette inscription à double sens était-il volontaire? Est-ce que Vince, ou la personne qui avait fait graver cette épitaphe, connaissait le dicton du général Sheridan, affirmant que le seul bon Indien est un Indien mort? Sur la pierre qui était à sa gauche, il lut « Miss Benjamin Junior Vince, Alice ». Né le 13 avril 1909, décédé le 4 juin 1949, une femme fidèle. Fidèle à Benjamin Junior Vince? C'était une inscription bizarre pour une pierre tombale. Mais il était vrai que tout dans les rites funéraires des hommes blancs paraissait bizarre aux yeux de Shea. Les Navarros étaient dépourvus de ce sentimentalisme attaché au cadavre. La mort volait au corps tout ce qui en faisait le prix, jusqu'à son identité qui était perdue au moment où le fantôme en Navarro Shindi se libérait. Ce que le fantôme laissait derrière lui était quelque chose dont il fallait se débarrasser avec le minimum de risque de contamination pour les vivants. Le nom des morts était tu et n'était assurément pas gravé dans la pierre. Chi reporta son regard sur la pierre tombale où figurait le nom de Charlet. Il éveillait un écho dans sa mémoire. Il n'y avait pas de Charlet dans son clan. Le peuple à la parole lente, ni aucun parmi les autres clans qui vivaient dans la région de Round Rock, où habitait sa famille. Mais ici à l'est, aux confins de la réserve, chez le peuple des Dindi du sel, ou celui des chèvres nombreuses, ce nom semblait assez courant. Et quelqu'un qui s'appelait Charlet avait récemment fait quelque chose dont il devrait bien être capable de se souvenir.
Second look, circling fire, that second look, throwing flame. Now I'm the burning tree, you're the only one for me.
You're the only one for me.
Without a second thought, this way of feeling, a second thought, the truth of hearts,
the truth of hearts.
Can this be love? The question can't be answered. The answer just is, you're the only one for me.
You're the only one for me.
I've had my struggles with self and worth. There are ways I used to hurt. Now I'll throw that hurt away. Count this blessing, a feather from the wind, moonbeams kissing smile, the truth of hearts.
The truth of hearts.
You're the only one for me.
Accompagné du fidèle Jacques, l'orphelin qu'il a pris sous son aile, le père Ananda entame une enquête où il devra affronter non seulement des truands de la mafia, impliqués dans les pires trafics, mais aussi des moines du Watwe, dont les agissements sont aux antipodes de l'enseignement du Bouddha. L'enfer est aussi dans le cœur des hommes. J'avais pour compagnon de voyage un novice de 13 ans, répondant au nom de Jack, que le long trajet en bus réjouissait beaucoup plus que moi. Nous étions tous deux vêtus de tuniques orange. Il me rappelait bien involontairement que ma propre jeunesse s'était enfuie depuis longtemps et qu'on n'accepte pas au statut de moine bouddhiste quinquagénaire sans perdre un tant soit peu d'enthousiasme pour des futilités comme les promenades à la campagne en autocar et les visites de parcs d'attractions. Car telle était notre destination, le fameux jardin de l'enfer. C'était un vaste complexe monastique dans un trou perdu à quelques heures de Bangkok. Le parc en question promettait de ne pas ressembler tout à fait à Disneyland, consacré qu'il était à des concepts bouddhiques tels qu'enfer, démons et autres joyeusetés. Un représentant de l'autorité bouddhique m'avait chargé de visiter le Wat Wai et de voir ce qui s'y passait. Pour être plus précis, j'avais pour mission de découvrir pourquoi une nonne venait de s'y suicider, dévorée vivante après avoir sauté dans la fosse aux crocodiles du jardin de l'enfer. Nous arrivâmes à la gare routière de Saraburi à midi. Une heure plus tard, nous franchissions les grilles du Wat Wai en compagnie d'autres touristes venus de Bangkok. Sur le parking, un moine vint à la rencontre de notre groupe. Il répondait au nom de Pandito et allait nous servir de guide dans le jardin de l'enfer. « Tout le monde est prêt ?» dit Pandito. Jacques me prit la main avec un sourire de bonheur anticipé, impatient de la suite des événements. Frère Pandito nous fit franchir les grilles qui menaient au jardin de l'enfer. L'entrée consistait en un long tunnel de verdure fait de deux rangées toutes droites d'arbres enchevêtrés. Des serpents vivants de couleur verte étaient suspendus au front des eaux. La vue de ces reptiles enroulés autour des branches, dardant la tête et la langue derrière les feuilles, avait de quoi inquiéter. « Oh, les serpents sont parfaitement inoffensifs !» annonça Pandito, tandis que nous courbions les chines en priant le ciel que ces paroles fussent vraies. « Ce sont des serpents dorés qui vivent dans les arbres. Ils ne sont pas très actifs dans la journée et ils vous laisseront en paix si vous ne les embêtez pas. » L'idée que l'un de ces reptiles pût choir d'une branche et atterrir sur mon crâne chaud me semblait quelque peu répugnante. Je fus soulagée de constater que les autres n'étaient pas plus à l'aise que moi. Même Jacques se faisait tout petit et hâtait le pas, ce qui ne l'empêchait pas de sourire de toutes ses dents, comme si cette petite aventure était exactement le genre de distraction qui rend les adolescents fous de joie. Et d'ailleurs, c'était à l'évidence le cas. Le chemin aboutissait à une passerelle qui enjambait un cours d'eau. Le tablier du pont était constitué de crânes, semble-t-il en plastique, sur lequel il nous fallut marcher. Ce qui posait tout de même un petit problème, sachant que toucher la tête de quelqu'un avec son pied est à peu près la pire insulte qu'on puisse lui faire. Traverser un pont de crâne, notre groupe marqua un temps d'arrêt. Puis, une âme courageuse s'aventura sur le tablier, déclenchant un enregistrement caché qui déversa soudain un concert de soupirs et de gémissements parsemés de cris perçants. Cela nous fait rire, mais du rire que l'on a quand on est dans le noir et qu'on essaye de se donner l'air brave. Tandis que Jacques se régalait, j'étais déjà en train de demander quand la visite serait enfin terminée et comment les moines du Wai Wai allaient réagir en me voyant fouiner chez eux et poser des questions sur la nonne récemment décédée. À gauche, une solide palissade pourvue de petits passages pour piétons et de plateformes s'offrait à nos regards. Il y avait là une rivière artificielle dont on distinguait clairement le lit bétonné et qui était désormais envahi par la végétation et les plantes aquatiques. Des crocodiles s'y prélassaient et il y en avait de très très gros. De l'autre côté, à une certaine distance de la berge, des zones sablonneuses s'étiraient entre les arbres, peuplées de crocodiles au repos. Certains la gueule béante, la plupart immobiles en raison de la chaleur. La pensée de la nonne qui s'était suicidée en sautant par-dessus la palissade et en se laissant dévorer vivante me vint immédiatement à l'esprit. On aurait eu du mal à imaginer pire façon de mourir. Et quelque chose me disait que cette mort était calculée, comme si la jeune femme avait voulu faire passer un message. À voir. Ambiance polaire, tradition religieuse et querelle d'éleveurs, l'auteur Olivier Cru nous entraîne dans un roman étonnant avec son livre Le Dernier Lapon. Voilà maintenant 40 jours que la Laponie est plongée dans la nuit. Dans l'obscurité, les éleveurs de rennes ont perdu un des leurs. Laponie centrale, 1693. À Aslak trébucha, signe de fatigue. Le vieil homme n'avait pas lâché son paquet. Il roula sur lui-même. Le choc fut amorti par la couche de bruyère. Aslak se redressa. D'un coup d'œil derrière lui, il estima la distance de ses poursuivants. Les aboiements approchaient. Il lui restait peu de temps. Il reprit sa course silencieuse. Le visage creusé et des pommettes rebondies lui donnaient un air mystique. Ses yeux étaient enflammés. Ses pieds trouvaient à nouveau seuls la trace. Son corps se dédoublait. Il sourit, respira plus vite, à s'en faire tourner la tête. Léger, le regard aiguisé, les pas infaillibles. Il savait qu'il ne chuterait plus. Il savait aussi qu'il ne survivrait pas à cette nuit doucereuse. Il le pistait depuis trop longtemps. Cela devait finir. Il ne perdait pas un détail de ce qui l'entourait. Le plateau qui s'élevait, le mouvement des pierres, la berge élégante du lac à la forme de tête d'ours, les montagnes au loin, pelées, douces, où ses yeux distinguaient les rênes assoupies. Un torrent s'écoulait. Il s'arrêta, le souffle à peine haletant. Ici, il fixa les lieux. Le torrent qui s'écoulait et se déversait dans le lac, les traces de rennes qui filaient dans la montagne vers l'est, où la lueur du soleil à venir indiquait le début de sa dernière journée. Il resta grave, serra son paquet. Un petit îlot s'élevait dans un coin du lac. Il s'en approcha, trancha des branches de bouleau nain à l'aide de son couteau. L'îlot était couvert de bruyères et d'arbrisseaux. Les aboiements se rapprochaient. Il se déchaussa, jeta dans l'eau les branches pour éviter de laisser ses traces dans la vase. Il continua ainsi jusqu'au rocher, grimpa, souleva les bruyères et enfouit son paquet. Il rebroussa chemin, puis il reprit sa course. Il n'avait plus peur. Les chiens couraient toujours. Plus près, et encore plus près. Les hommes ne tarderaient pas à apparaître derrière le sommet de la colline. Aslak fissa une dernière fois le lac, le torrent, le plateau, l'îlot. Les reflets mauves orangés du soleil marbraient des nuages. Il courait, et pourtant il sentait que ses pas ne le portaient plus. Il fut bientôt rattrapé par les chiens, des dogs, qui l'entourèrent en grognant sans le toucher. Il ne bougea plus. C'était fini. Les hommes étaient là, le souffle court, les yeux exorbités. Il transpirait l'air mauvais, mais les yeux pleins de crainte ainsi. Leurs tuniques étaient écorchées, leurs chausses détrempées, et ils s'appuyaient sur des bâtons. Ils attendaient. L'un d'eux s'approcha. Le vieux lapon le regarda. Il savait. Il avait compris. Il avait déjà vu par le passé. L'homme évitait le regard du lapon. Il passa derrière lui. Le vieux eut le souffle coupé quand le coup violent lui fit éclater la joue et lui brisa la mâchoire. Le sang gicla d'un coup. Il tomba à genoux. Un deuxième coup de bâton allait tomber. Le lapon était chancelant, choqué, même s'il avait tenté de préparer son corps. Un homme sec arriva. L'autre tint son geste et reposa son bâton. Il demeura en retrait. L'homme sec était vêtu de noir. Il jeta un regard froid à Aslak, puis à l'homme au bâton, qui recula de deux pas, le regard fuyant. « Fouillez-le !» Deux hommes s'avancèrent, heureux que le silence soit brisé, et lui arrachèrent brutalement son manteau. « Allez, diable de sauvage, ne résiste pas !» Aslak était silencieux. Il ne résistait pas. Mais ces hommes avaient peur. La douleur le gagnait, le sang coulait, les hommes le tiraillaient, l'obligèrent à baisser son pantalon en peau de reine, lui arrachèrent ses chausses, son bonnet, que l'un d'entre eux jeta au loin en prenant soin de cracher dessus. L'autre lui prit son couteau en bois de reine et en bouleau. « Mais où l'as-tu caché ?» Le vent soufflait maintenant sur la toundra. Ça lui fait du bien. « Où, esprit du diable ?» cria l'homme en noir, d'un ton si menaçant que même ceux qui l'accompagnaient reculèrent d'un pas. L'homme en noir entama une prière silencieuse. Le vent était tombé, les premiers moustiques se manifestaient. Le soleil prenait maintenant appui sur la montagne. La tête du lapon dominait, douloureuse. Il sentit à peine le coup lorsque le bâton lui arracha à moitié la tempe. Sous l'engomme, na 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 na.
na 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 ya na ya na ya na yo no no yo no yo no yo no 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 yo no 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 yo.
Avant de nous quitter, je laisse le micro à présent à Michel pour son coup de cœur.
Bonjour. Avant de prendre des vacances bien méritées, je vous propose aujourd'hui un coup de cœur ludique. Une chanson de La Tordue qui s'appelle Le Remix. C'est une chanson composée qu'avec des titres ou des vers d'autres chansons très connues. Saurez-vous les retrouver ? Si vous le désirez, vous pouvez nous répondre sur la page Facebook de l'émission. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et j'espère vous retrouver à la rentrée.
Un petit homme tordu sur un sentier tout tordu a trouvé une pièce tordue sur une pierre tordue. Achète un chat tordu, prend une souris tordue. Tous ensemble, ils ont vécu dans une petite maison tordue.
J'ai 10 ans dans la gare de Nantes, ma petite comme l'eau. Avec le temps, les passantes, faut pas que je loupe mon vélo. Cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. A message to you, Rudy. Les loups sont entrés dans Paris, comme au tout Marie-Lou Mélodie. Could you be love?
Could you be love?
Avec Denise, elle est à toi, cette chanson. La chanson de Prévert. Ce soir, mon petit garçon, y'a de la rumba dans l'air. Je suis amoureux de tout un pensionnat. Y'a des allumettes au fond de tes yeux. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête, je vais faire du feu.
Could you be love? Could you be love?
Avec Denise, le soleil bord. Le temps des cerises. Entre le jazz et la java, danser sur moi Lily Marlène, Jimmy Jazz, Malavida. J'en ai vu pousser des rengaines. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Sarah, Lily, Lola Rastaquer, je chante pour passer le temps.
Notre émission Je suis venu vous lire se termine. Nous vous souhaitons un bon été et de belles lectures en perspective. À la technique et à la programmation musicale, Michel Yordanov. À la lecture et à la réalisation, Corinne Tardieu. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur www.jet.asso.fr ou sur la page Facebook de l'émission. Bonne écoute, bon été sur Jet FM.
Daddy was a bank robber, mon oncle infâme bricoleur. Allons voir si la rose pull up to the bumper, planète claire à Spinker.
Could you be love?
Avec Denise. Le soleil bord. Le temps des cerises. J'ai 10 ans dans la gare de Nantes. Ma petite est comme l'eau. Avec le temps, les passantes. Faut pas que je loupe mon vélo. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant.
Et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Hein? Eh, c'est fini. Eh oui.